la liturgie nous permet d'avoir des petits morceaux, le travail que nous faisons veut nous aider à découvrir la cathédrale. Voilà, pas uniquement un chapiteau ou une ogive ou un vitrail, mais l'ensemble. Et c'est pourquoi nous prenons des chapitres. Alors, je vous avais annoncé les chapitres 16 à 18. Comme vous allez voir, je vais me concentrer sur le chapitre 16, fin du chapitre 15, début du chapitre 17, de trois petits morceaux qui ne sont pas les plus, les plus palpitants. C'est sûr que quand on étudie la sortie d'Égypte avec les chevaux et cavaliers et Pharaon qui se fait engloutir, ça, on aime bien. Les plaies d'Égypte aussi, c'est pas mal, hein, ça donne du voilà, il y a de l'action. Ce que nous allons voir maintenant, ce sont des passages qui sont beaucoup plus modestes dans notre mémoire biblique, dans notre vision de la grande cathédrale de la Bible. Et pourtant, ces passages sont très intéressants parce que, comme souvent, quand le rythme se ralentit, ça permet d'être plus attentif aux personnes, hein, aux acteurs. Et c'est un peu ce qui se passe là dans ce que nous allons voir maintenant. Nous sommes entre deux moments, hein, on va être entre deux moments très très importants, qui sont peut-être les plus importants dans la mémoire, pas simplement la nôtre, mais la mémoire d'Israël, entre la sortie d'Égypte, la traversée de la mer et le Sinaï, bien sûr, hein, tout le monde, on peut parler à tout le monde du mont Sinaï et de la loi de Moïse, on peut parler à tout le monde de la traversée de la mer. Entre les deux, Massa, Meriba, le désert de Sin, ça vous dira pas forcément grand chose. Non, ça vous dit rien? Ah ben, à la fin, ben, il y a Marie-José qui connaît. C'est dans les lectures liturgiques, exactement. Voilà. Mais c'est quand même pas les passages qu'on connaît le mieux. Donc, voilà. Alors voilà, la manne. On connaît la manne, mais voilà. On va essayer de regarder ce qui. Alors, la table est pas bien fichue. Voilà. C'est pas grave. Donc, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui, cette période entre la sortie d'Égypte et le don de la loi. C'est une période encore un peu incertaine parce que Israël vient tout juste de sortir de sa torpeur. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de la torpeur de ces pauvres esclaves qui ne se rendaient pas trop compte de ce qui leur arrivait, qui étaient assez passifs. On a vu que c'était surtout Moïse qui avait agi, enfin le Seigneur à travers Moïse. Et maintenant, eh bien, on va commencer à voir un peu plus ce peuple d'Israël prendre des couleurs. Vous voyez, comme quelqu'un qui était aphasique ou malade depuis 4 siècles, 430 ans, hein, nous dit le texte de l'Exode, eh bien, avant d'arriver au Sinaï, eh bien, le Seigneur va redonner des couleurs, hein, à son peuple d'Israël. Et c'est ça que nous allons voir à travers les épisodes que nous allons évoquer ce soir. Alors, le premier chapitre est très rapide. Hein, je me suis demandé si je le laisserai, puis je le laisse quand même, parce que c'est bien de voir qu'il y a une géographie, ça permet de situer les choses. Hein. Deuxièmement, je m'arrêterai surtout sur le gros morceau, c'est la question des murmures d'Israël. Hein, j'ai donné ce titre, hein, c'est très très important. Et puis ça nous parle, hein, murmurer, vous savez, remugneux, hein, vis-à-vis dans la vie spirituelle, ça compte beaucoup ça. Hein, ça nous parle à tous. Voilà. Hein, donc les murmures d'Israël. Et enfin, troisièmement, la manne, qui ne fera que développer finalement ce que j'aurais dit dans la partie centrale. Voilà. Donc d'abord un petit point très rapide sur la marche au désert. Comme je vous l'ai dit, nous sommes sortis d'Égypte. Aussi, c'est important de se rendre compte qu'il y a une géographie, ça c'est très très important. L'histoire se développe sur une géographie, on pourrait dire la spiritualité ou la rencontre de Dieu se développe à partir d'une histoire. Et l'histoire se développe dans une géographie. Donc ça, il faut vraiment comprendre ça, la Bible. Hein, c'est incarné, c'est concret, c'est une géographie, c'est une histoire, ce sont des lieux, ce sont des événements. Ça, c'est absolument fondamental. J'ai régulièrement des discussions avec des gens qui me disent, mais au fond, le peuple juif, maintenant, avec le christianisme, on n'en a plus besoin. Voilà, Jésus nous a révélé l'amour éternel de Dieu, donc ça suffit. Eh bien, précisément, non. Hein, il s'agit d'une histoire très concrète avec des lieux, des personnes, des événements, et donc la géographie a du sens. Et là, c'est sûrement un des moments dans l'histoire d'Israël où la géographie a beaucoup compté, puisqu'il s'agit du grand déplacement de l'Égypte à la terre promise. Donc, c'est important de l'avoir en mémoire. Alors, comme je vous le disais la dernière fois, le Seigneur a fait faire à Israël, a fait prendre la route, non pas la route du nord, qu'on appelle la route des Philistins, parce qu'elle était gardée, il y avait des forteresses, évidemment, c'est la route, en plus c'était l'autoroute qui relie la Mésopotamie à l'Égypte, enfin le continent asiatique au continent africain, donc on devine bien que c'était très très gardé, hein, cette route qui passe pour les pèlerins de Terre Sainte, hein, vous vous souvenez, la Via Maris, hein, qui passe par la Galilée, qui passe près de Capharnaüm, voilà. Hein, tout ça, cette route était très importante, et donc le Seigneur fait prendre à Israël un chemin de traverse par le sud du Sinaï, hein, le sud de la péninsule du Sinaï, une zone entièrement désertique, et on a pas mal d'indications géographiques. Je précise tout de suite que je rappelle, je vous l'ai dit à la première séance, et j'aurai l'occasion de le redire, c'est que nous n'avons que quasiment pas de traces archéologiques. Il y a des recoupements qu'on peut faire, mais il n'y a pas, évidemment, les événements de l'Exode, vous voyez bien qu'il n'y a pas de monuments, il y a des évocations de lieux. Hein. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'on est avec un récit qui a toutes ces vérifications et ces preuves archéologiques. Voilà. Il y a donc eu la traversée de la mer des roseaux. Hein, si je ne vous l'ai dit la dernière fois, je vous le dis ou le redis maintenant. Il s'agit bien de la mer des roseaux, Yam Souf en hébreu. Hein. Nous disons la mer rouge. Alors évidemment, c'est extraordinaire. Quand on voit la mer rouge sur une carte, on dit la mer rouge, les grandes murailles, ça avait des très très grandes murailles d'eau. Mais il est question de mer rouge uniquement depuis la traduction de la Septante. C'est la Septante, c'est la traduction grecque, hein, assez tardivement. Qui a parlé de mer rouge. Mais en réalité, c'est en hébreu, c'est Yam Souf, c'est la mer des roseaux. Et la mer des roseaux, c'est un endroit marécageux, hein, qui est tout à fait connu, qui est à l'est de l'Égypte, hein, et qui se situe justement, qui barre la route qui va vers le Sinaï. Hein. Donc c'est cette Yam Souf, cette mer des roseaux, que les Israélites ont dû traverser. Première étape, ils iront jusqu'au désert de Chour. Hein, donc on arrive sur la péninsule du Sinaï. Ils s'arrêtent à Mara, qui sera le lieu du premier miracle. Hein. Mara, c'est un nom dont vous vous souviendrez, parce que c'est là qu'il y a le miracle de l'eau amère, hein, qui est imbuvable, on va en parler tout à l'heure, que Dieu veut que le Seigneur va adoucir, un Mara, amer, ça se ressemble, le nom de Mara se renvoie aux eaux amères, voilà, le lieu du premier miracle. Ensuite, les Israélites repartent, ils rejoignent Élim aux 12 sources et aux 70 palmiers, hein. Ces lieux, ni Mara ni Élim, on ne peut pas les situer, on ne les connaît pas. Hein. Il y a quelques endroits, on peut faire des suppositions, mais Mara et Élim, on ne sait pas. Ensuite, ils arrivent au désert de Sin, hein, qu'on situe davantage, si vous regardez sur un atlas historique, c'est là qu'il y a l'épisode du don de la manne. Alors évidemment, c'est le désert, c'est important parce que la question de la faim se pose, la question de la faim et de la soif. Hein. Et à partir de là, ils vont à Refidim, ce sera le troisième lieu, c'est pour ça que j'ai mis en gras sur les feuilles, Mara, le désert de Sin et Refidim, trois lieux dans lesquels auront lieu les trois miracles que nous allons évoquer ce soir. Hein. Refidim, Dieu va faire jaillir l'eau du rocher. Hein, ce sera aussi le lieu de l'attaque contre les Amalécites, ou plutôt les Amalécites qui vont les attaquer. Hein. Et ce nom va recevoir, ce lieu va recevoir un nouveau nom, Massa et Meriba, hein, qui veut dire l'épreuve et le procès. Hein, tous les noms ont une signification et vous verrez pourquoi. Voilà. Et puis enfin, ils arrivent au désert du Sinaï, hein, qui est vraiment à la pointe sud. Alors la localisation est incertaine, mais depuis l'époque byzantine, depuis le IVe siècle, on situe le désert du Sinaï et la montagne du Sinaï, hein, le Djebel Moussa, Djebel c'est-à-dire la montagne, Jabal Moussa, donc au sud de la péninsule, un endroit qui est connu. Qui est allé au Djebel Moussa? Le seul à y être. Et Marie-Josée, ben dis donc, hein, on aura des choses à se raconter. La montée, la descente, la pire que j'ai jamais faite, parce que vous avez des marches qui ont été taillées par les moines. Et la descente, finalement, c'est toujours fatigant parce qu'on porte le corps, mais vous avez des marches hautes comme ça, puis d'autres qui sont hautes comme ça. Et donc, au bout d'un certain moment, vous êtes comme ça. Donc, à la fin, vous prenez sur la pente directe en courant comme ça, puis on nous dit, faut surtout pas faire ça parce que c'est très, très dangereux. Mais ce sont des moments assez inoubliables. Et il y a le gros monastère Sainte-Catherine, qui est une forteresse, parce qu'il y avait des radias et les moines devaient se protéger. Et c'est à l'intérieur de la forteresse qu'on garde les souvenirs du buisson ardent, hein, le Sinaï, le lieu où Moïse avait déjà été avec ses troupeaux et le Seigneur lui était apparu. Voilà. Donc on arrive au désert du Sinaï, donc à la pointe sud. Si vous voyez sur la carte, hein, cette espèce de triangle, eh bien vous situez bien depuis le nord-est de l'Égypte, la zone marécageuse, vous descendez le long de la côte et vous arrivez à cette pointe sud, au Djebel Moussa, qui est connu aujourd'hui et qui évoque très très bien ces lieux. Voilà. Alors, cette route a une signification théologique. D'abord, je vous ai dit que la géographie a beaucoup d'importance. Et puis, on trouvera ensuite le thème de la route, hein, qui est déjà présent chez Abraham, très très important chez Abraham, mais qui gardera de l'importance dans la suite, dans la Bible. Hein, la Bible, ce ne sont que des routes à traverser, et ça ira jusqu'à la mission de saint Paul. Je me souviens d'une fille qui me disait un peu, on emploie tout le temps le terme de route, de chemin, et l'idée par derrière, c'est bien d'avoir des vérités comme ça qui nous sont données de façon ferme, et en finir avec ce vocabulaire de route, chemin, etc. Alors moi, je vais rappeler que quand même, le chemin, bah, c'est Abraham, c'est Moïse, c'est l'exil, et puis, chez les premiers chrétiens, vous savez que le nom qu'on donnait à l'église, au début, avant qu'on emploie le mot église, c'était quoi? C'était les membres de l'église, on disait les adeptes de la voie, V-O-I-E, le chemin, hein, thème du chemin, hein, parce que Jésus dit « je suis le chemin qui conduit vers le Père, hein, je suis la voie hein, », les adeptes de la voie, il en est question dans les Actes des Apôtres. Donc le thème de la route reste fondamental, c'est théologiquement très très important, hein, on le retrouvera à propos de la loi, je vous en parlerai la prochaine fois, hein, c'est un thème qui, donc le thème de l'Exode, il y a l'idée de sortir d'Égypte, mais il y a aussi l'idée de suivre le chemin. Quand Jésus dit « je suis le chemin, la vérité, la vie », évidemment pour des Juifs, ça veut dire quelque chose. Hein, parce qu'on est en chemin, parce qu'on est des pèlerins, et ensuite ça continuera, comme je vous l'ai dit, dans la mission chrétienne, saint Paul sera tout le temps sur les routes. Voilà, ce thème, vous avez une relecture des événements de l'Exode que nous voyons là, dans le livre du Deutéronome. C'est très intéressant parce qu'on veut dire que le Deutéronome, c'est le premier commentaire de l'Exode. Hein, on peut dire que vous lisez l'Exode, très bien, là ce sont des événements. Deutéronome, ça veut dire la deuxième loi. Deutéros en grec, nomos, la loi, deuxième loi. C'est la loi qui va être reprise par Moïse juste avant sa mort. Hein. Et là, il y a le thème du Deutéronome qui va beaucoup revenir en boucle, c'est « souviens-toi, souviens-toi ». Hein, c'est le Seigneur qui dit à Israël « ne perds pas mémoire de ce que j'ai fait ». Et il y a ce chapitre 8 qui est fondamental, je vais y faire référence ce soir, là, dans les chapitres 2 et le chapitre 3. Souviens-toi de tout le chemin, hein, de la route, de la voie, souviens-toi du chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert. Voilà, petite parenthèse, ça me fait beaucoup bien de savoir que notre foi est identique à un chemin. Ça veut dire que rien n'est jamais rien n'est statique et que le Seigneur nous ouvre. D'ailleurs, il le dit chez Jérémie, je vais t'ouvrir une espérance, je vais t'ouvrir un chemin. Hein, voilà, notre chemin ne s'arrêtera qu'au ciel et même au ciel, on pourra dire qu'il continue, il se poursuivra dans le cœur de Dieu. Hein. Voilà, souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert. Voilà. Alors, ça, c'était un rappel, mais c'est bien d'avoir ça présent à l'esprit, finalement, faute de pouvoir aller en Terre Sainte, parce que c'est vrai qu'il faut quand même débourser quelques centaines, voire un peu plus d'euros. Là, ce soir, c'est direct. Hein, je vous ai fait une petite Terre Sainte en quelques minutes. Mais il faut avoir la géographie. Hein, il y a des historiens parmi nous, et je pense qu'ils ne seront pas opposés à cette idée. Hein, c'est fondamental, et notamment pour la question de la traversée du désert. Alors, nous arrivons au terme des murmures d'Israël. J'ai mis le titre des murmures, parce que les murmures, c'est un thème en soi. C'est une grande question qui va marquer toute la période du désert. Je vais donc m'intéresser à trois étapes. Hein, trois miracles et trois premiers. En fait, il y a des séquences qui se suivent bien. Trois miracles, après quoi il y aura la bataille contre les Amalécites, il y aura la rencontre avec Jéthro, voilà. Puis ensuite, l'arrivée au Sinaï. Hein, je laisse de côté la bataille avec les Amalécites, qui est assez particulière, et la rencontre avec Jéthro, qui pose aussi d'autres problèmes. Mais il me semble que dans la dynamique d'ensemble, dans cette découverte de la cathédrale, les trois miracles mis ensemble, pris ensemble, que nous devons lire ensemble, nous disent quelque chose d'assez central. Alors, dans ce chapitre 2, trois étapes, trois sous-parties, si on peut dire. La première, c'est comment Israël met Dieu à l'épreuve. Pas simplement les murmures, mais l'épreuve. Comment Israël met Dieu à l'épreuve. Nous suivons le récit, tout simplement. Hein, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Le récit de la marche commence assez succinctement, de façon assez lapidaire. Les choses sont dites. Voilà. Hein, le lecteur peut s'identifier aisément au peuple du désert parce que les mots disent ce qu'ils veulent dire ce qu'ils disent. C'est pas plus compliqué. Ils marchèrent trois jours dans le désert sans trouver d'eau. Mais quand ils arrivèrent à Mara, ils ne purent boire de l'eau de Mara, car elle était amère, c'est pourquoi on l'a appelée Mara. Le peuple murmura, en plus même le français le revient à Mara, l'eau était amère, on l'a appelée Mara, le peuple murmura. C'est souvent on a ça, c'est procédé en hébreu, des allitérations, on l'a aussi en grec, mais là on l'a en français. Ils purent boire de l'eau de Mara, elle était amère, on l'a appelée Mara, le peuple murmura contre Moïse en disant « Qu'allons-nous boire ?» Parole définitive. Parole définitive, mais légitime. Ils ont marché pendant trois jours. Alors trois jours, ça doit faire un petit tilt dans notre tête, parce que dans la Bible, vous remarquerez que trois jours, c'est toujours la durée pour une action de salut. Alors là, c'est encore assez modeste comme action de salut, mais trois jours, c'est jamais au hasard. Voilà. En tout cas, là, le murmure des Israélites est légitime. C'est normal. Ils marchent dans le désert, ils ne trouvent pas d'eau, et quand ils arrivent, vous savez, on arrive, quand vous marchez comme ça, vous dites, ah, c'est chouette, il y a une buvette, etc. Vous voyez quelqu'un en sortir, vous êtes super, vous arrivez, puis, ah ben non, on vient de fermer, c'est trop tard, il n'y a plus personne, etc. Vous n'êtes pas content, et il faut que ça sorte, quoi. Il faut ça de sortir. On ne sait pas contre qui. Le problème, c'est si on est en voiture, si on est qu'à deux ou trois, ça sortira sur les autres, mais c'est comme ça. Donc, jusqu'à présent, ce récit nous met dans une situation très concrète, très important de le comprendre, c'est un premier niveau, il y a un niveau historique, concret, qui est l'expérience d'Israël. En tout cas, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, va adoucir l'eau pour que le peuple puisse la boire. Un élément sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Le récit nous transporte ensuite au désert de Sin, dont je parlais tout à l'heure, où aura lieu l'épisode de la manne. Je reviendrai sur l'épisode de la manne tout à l'heure. D'emblée, alors là c'est déjà un peu différent, d'emblée les murmures reprennent. Premier récit, on nous dit ils marchent trois jours, voilà, ils arrivent, l'eau est amère, donc obligatoirement il y a des murmures. Là, on arrive au désert de Sin, tout de suite, les murmures reprennent. Comme si c'était devenu une habitude. Peut-être parce que le peuple s'est dit, on a murmuré, ça a plutôt réussi, donc on va recommencer. Vous connaissez les enfants qui... les enfants, ils ont des très bonnes techniques, ils se rendent compte qu'il y a des trucs qui marchent. Hein, comme ça, une jeune maman de la paroisse, elle me dit, une petite fille, c'est sur la route, elle allait au sud de Lyon, comme ça, dans la Drôme, et puis sa fille dit, maman, un caramel. Non, t'en as déjà eu, pas de caramel. La route se poursuit. Cinq minutes après... De nouveau, maman, un caramel. Pas de question. Quand tu poursuis, maman, deux caramels. À un moment, tiens bon. Puis elle dit non. 10 minutes après, maman, tu veux 4 caramels. Alors maman commence à en avoir un peu assez. Et puis, un quart d'heure après, maman, le sac de caramel. Alors la maman dit, c'est bon, prends un caramel. Elle dit, elle a gagné. Quoi. Elle a gagné. Elle savait quelle est la tactique par laquelle ça pouvait marcher. Voilà. Alors ensuite, il fallut qu'elle trouve encore autre chose. Voilà. Donc là, il y a peut-être un petit peu... Israël se comporte un peu comme un petit enfant. C'est un thème qui va ressortir. Hein, on va revenir dessus tout à l'heure aussi, hein, le thème de l'enfance, hein, le comportement du le murmure. Le murmure, d'ailleurs, dans ce texte, le murmure revient fréquemment. Hein. Je vous ai mis les versets, hein, au moins 5 fois. Il y a une répétition. Hein. Le murmure devient comme un mode d'être, un peu comme le petit enfant en voiture. « Maman, quand est-ce qu'on arrive ? Papa, j'ai envie de mal. » Voilà. Donc, il y a un mauvais pli qu'Israël est en train de prendre. Alors, on devine qu'ils ont faim. Hein, donc, on peut dire que c'est leur protestation légitime, mais l'auteur biblique ne s'arrête pas sur ce motif de la faim. Hein. Le motif qui est donné, la raison qui est donnée, est autre, c'est le souvenir de la nourriture d'Égypte. Hein. Donc, on passe d'une expérience concrète, matérielle, légitime, à ce qui se passe dans leur tête, dans leur mémoire. Et dans la mémoire, on voit qu'ils sont encore en Égypte. Ils sont encore en Égypte. Je vous avais dit que ce serait la grande question qui accompagnerait tout le livre de l'Exode. Sortir d'Égypte, ça ne peut pas se faire que physiquement, il faut que ça se fasse à l'intérieur. Dans la mémoire, ils sont toujours en Égypte. Que ne sommes-nous morts de la main des Égyptiens, du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis auprès de la marmite de viande et mangeons du pain à satiété. Le souvenir d'Égypte. Quand je disais tout à l'heure, souviens-toi du chemin que je t'ai fait faire. Pour eux, pour l'instant, ils se souviennent de la bonne nourriture d'Égypte. Ce qui est certain, c'est que Dieu va répondre une nouvelle fois aux Israélites en leur envoyant du pain du haut du ciel. Troisième épisode, l'épisode de Réphidim, qui va confirmer que les Israélites sont sur une pente dangereuse, une mauvaise pente. Leur murmure s'aggrave. Cette fois-ci, ils cherchent querelle. Il ne s'agit rien de moins que d'une révolte. Moïse va employer le terme d'épreuve, nasa, qu'on retrouve dans le mot massa. Querelle, qu'on traduit par rib, d'où le nom de Meriva qui sera donné, et l'épreuve, nasa, qui donnera le nom de massa. Moïse leur dit, pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve? Donc là, ça devient violent parce que c'est pas uniquement, hein, le stade numéro 2, c'est la petite fille qui veut ses caramels et qui va obtenir ce qu'elle veut, mais en commençant à mettre un peu du mauvais esprit, là, il y a l'idée du procès, un rib, c'est intenter un procès à quelqu'un. Hein, d'ailleurs, dans la Bible, il y a des ribs prophétiques, hein, des prophètes, le Seigneur qui fait un procès à son peuple. Hein, et bien là, c'est Israélite qui met Dieu à l'épreuve. En gros, le met devant ses responsabilités en disant « tu ne prends pas soin de nous ». Les Israélites ne se plaignent pas seulement de leurs conditions, mais ils vont remettre en cause la libération d'Égypte, évidemment, ce qui est d'une très grande gravité, hein, libération que Dieu a accomplie en leur faveur. Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Ce qui est évidemment extrêmement grave, hein, parce que le Seigneur a manifesté sa puissance quand il les a délivrés en leur faveur. Il a mené une action tout à fait impressionnante, dont nous avons eu le récit depuis le début du livre de l'Exode, et les Israélites refusent le don de Dieu. Donc c'est d'une très très grande gravité. Le contenu de leur rébellion, finalement, va être exprimé comme en conclusion de cet épisode. Dieu est-il au milieu de nous ? Ce sera la grande question du livre de l'Exode. Dieu est-il au milieu de nous ? Quelle est la grande question du livre, la grande question spirituelle du livre de l'Exode ? Dieu est-il au milieu de nous ? Très bien, il nous a fait sortir d'Égypte, mais nous sommes livrés à nous-mêmes. Il y aura donc un chemin spirituel, c'est le cas de le dire, par lequel Israël va découvrir que Dieu est présent et comment il est présent. Mais pour l'instant, il y a cette provocation violente vis-à-vis de Dieu, hein, de la part du peuple d'Israël. Voilà, une épreuve qui nous pouvons juger si nous la trouvons légitime ou pas, mais en tout cas, on voit comme sortir du fond du cœur d'Israël les dispositions qui sont les siennes. Hein, ça a commencé doucement. Et là, ça se termine de façon assez violente, à tel point que Moïse lui-même est pris à partie, il y aura un dialogue avec le Seigneur. Et malgré tout, pour une troisième fois, le Seigneur va répondre en faisant jaillir l'eau du rocher. Alors, ces trois réponses du Seigneur à une attitude de plus en plus provocatrice, pour ne pas dire hostile de la part du peuple, cette attitude du Seigneur, eh bien, il nous est bon de nous y arrêter quelques instants. Parce que, précisément, l'auteur de l'Exode nous montre que Dieu est en train d'accomplir quelque chose de positif, malgré ces événements dramatiques. Et j'ai proposé comme titre « Comment Dieu met Israël à l'épreuve ». Et c'est bien le même terme d'épreuve qui est employé, le même verbe « nasa ». Mais cette fois-ci, c'est Dieu qui éprouve le peuple, évidemment dans un sens un peu différent. D'une certaine manière, nous avons vu avec ce caractère éprouvant du désert, nous avons vu quelles étaient les dispositions réelles, les dispositions intérieures des Israélites. C'est pour ça que c'est bien de faire de la randonnée ou des moments un peu... Ou aller en Terre Sainte ensemble. Alors en Terre Sainte, c'est quand même pas trop violent d'un point de vue physique ce qu'on a fait. On était dans le bus, on descendait du bus, on remontait, on allait dans des bons hôtels. Mais quand on fait de la marche dans le désert, que vous partez toute la journée, c'est là qu'on voit les tempéraments, les personnalités se révéler assez vite. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Et on est content à la fin de se retrouver chacun dans le bus, remele-mele. Puis après, on se retrouve à l'hôtel. Ça va mieux. Voilà. Mais c'est une expérience intéressante. Cela dit, je pense que physiquement, c'est tout aussi difficile de monter et descendre du bus parce qu'avec l'air conditionné, il y a des fois, je me dis, t'es beaucoup plus malade en montant dans le bus. Puis on a un peu marché quand même. Dans Jérusalem, on a quand même beaucoup marché. Voilà. Donc, Israël est dans cette situation du pèlerinage. Mais je regarde, mais il y en a tout plein parmi vous avec lesquels on était en Terre Sainte. Donc, c'est cette épreuve par laquelle Israël découvre le fond de son cœur, découvre ce qu'il est. Mais le Seigneur veut aller au-delà. Il veut... Il veut mettre son peuple à l'épreuve, chapitre 15, verset 25, c'est dit dès le premier récit, et ensuite dans le deuxième, pourquoi le mettre à l'épreuve ? Alors ça, c'est la pointe théologique de ces trois épisodes, de ces trois récits, de ces trois miracles, pour voir s'ils marcheront selon ma volonté ou non. Alors le texte dit, pour voir s'ils marcheront selon ma loi, il n'y a pas encore de loi, et il faut comprendre ici la loi comme la volonté du Seigneur. Marcheront-ils selon ma volonté? Sont-ils prêts à obéir? Je vous rappelle que le thème qu'il y a par derrière, la libération d'Égypte, c'était la libération de l'esclavage de Pharaon. Il s'agit de passer du service de Pharaon au service de Dieu. Obéir à Pharaon, c'était l'esclavage. Maintenant, c'est est-ce qu'ils vont obéir au Seigneur ? Je les ai éprouvés, je les mets à l'épreuve pour voir est-ce qu'ils accepteront de m'obéir et d'entrer dans la confiance. Et on voit bien qu'en effet, la réaction des Israélites, c'est que cette confiance est éprouvée. Il est évident que les Israélites sont dans une situation matérielle extrêmement rude. Ils ont perdu le confort dont, malgré leur esclavage, ils jouissaient en terre d'Égypte, ça nous l'avons évoqué plus d'une fois. Et ils se retrouvent comme des fuyards dans le désert, c'est-à-dire dans un lieu de mort. Aujourd'hui, le désert, c'est un lieu de vacances et tout à fait séduisant, et où on peut juger de la qualité de l'hôtel le soir, mais eux n'avaient pas d'hôtel le soir. Ils n'avaient pas de bus, ils n'avaient pas, rien. Ils n'avaient pas de sac à dos avec les machins, vous savez, là, les tuyaux pour boire des boissons, c'est ça. Il y a Ferial qui a ça, donc évidemment, les gens qui a ça, c'est bien. Voilà. Donc, quand on dit, ah ben oui, moi, le désert, je connais, que comme les Israélites, non, vous ne connaissez pas. Moi non plus, je connais, même si j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, mais on ne connaît pas le désert. Parce que le désert, c'est, on ne sait pas ce qu'on aura le soir, ni le lendemain, ni jamais. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, et on est obligé de marcher. Voilà. Donc, c'est ça que les Israélites ont connu. En Égypte, ils avaient le confort. Ils ont maintenant la liberté, mais c'est une liberté qui est dure, qui peut paraître inquiétante. Donc, ils n'ont pas d'autre issue que de faire confiance à celui qui les a menés dans le désert. Et Dieu veut les mener jusqu'au terme de ce chemin sur lequel il les a engagés. Comme je le disais tout à l'heure, il les a libérés physiquement, il va le faire aussi spirituellement. Et c'est pour cela que ces trois étapes où on voit petit à petit le fond de leur cœur se révéler, eh bien c'est Dieu qui les provoque, qui les met à l'épreuve pour affermir leur cœur. C'est le Seigneur qui les oblige d'une certaine manière à mettre à jour leur disposition. Deutéronome 8, comme je vous le disais tout à l'heure, ce passage très très important, « Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur t'a fait faire dans le désert afin de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. » C'est Dieu qui t'a mené au désert pour te faire connaître l'épreuve, non pas comme Israël qui éprouve Dieu par provocation, par refus, par désespoir, mais parce que, au contraire, Dieu veut faire surgir du cœur d'Israël une réaction de liberté. Dieu veut faire grandir son peuple. J'allais dire un peu comme des parents qui vont apprendre à leur enfant à nager. Il y a un moment, on va le lâcher dans l'eau et est-ce qu'il accepte de faire les mouvements ou est-ce qu'il dit « je coule ». Vous voyez ? Est-ce que je me rends compte qu'il faut que je réagisse par moi-même ? Vous voyez ? Ça, cette pédagogie, on la verra jusque dans l'Évangile. Quand on voit un malade s'approcher de Jésus, quand on voit un aveugle s'approcher de Jésus, aie pitié de moi. Et quand Jésus, alors c'est une parenthèse que je fais, mais c'est une relecture pour le Nouveau Testament, quand Jésus a devant lui un aveugle qui dit « aie pitié de moi », et Jésus ne va pas lui tout de suite le guérir, voilà, évidemment avec son amour immense, on pourrait penser qu'il le fasse. Non, il pose la question « que veux-tu que je fasse pour toi ?» Parce que Jésus veut faire naître la foi. Il veut faire naître la liberté, il veut affermir. Eh bien, c'est ce qui se passe avec Israël. Éprouver Israël, ça veut dire dans ton cœur, est-ce que tu vas te laisser conduire et puis je vais te donner la nourriture jusqu'à la terre promise, puis après on n'en parle plus, ou est-ce que par toi-même, tu acceptes d'entrer dans cette obéissance active, dans cette réponse qui prépare l'alliance finalement, qu'il y aura au Sinaï. Vous voyez que cette épreuve, c'est une épreuve spirituelle, un peu comme quelqu'un va faire une retraite ou quand on va faire un pèlerinage en Terre Sainte, on dit « je veux rencontrer le Seigneur », eh bien, qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur et est-ce que je suis prêt à le suivre ? Il y avait véritablement une pédagogie. Alors, c'est ça que je voudrais aborder maintenant, la question de la pédagogie de Dieu. Dieu veut faire naître la liberté. Le peuple d'Israël était amorphe à cause de l'esclavage. Il ne rêvait qu'à la nourriture d'Égypte. Maintenant, Dieu va susciter un peuple dans sa liberté, un peuple capable de se tenir devant le fer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de punition, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Dieu aurait pu dire à Israël, comme tu vois, c'est qu'un salifié. Ça reviendra après. Ça, je vais revenir dessus. Ça viendra, les punitions. Mais pour l'instant, on est au moment où Dieu suscite en Israël cette liberté. Voilà, Dieu agit avec son peuple en montrant une vraie pédagogie. Le terme, d'ailleurs, est tout à fait adapté, parce que c'est saint Paul qui le prend, Galates chapitre 4, chapitre 3 et 4, la loi est comme un pédagogue, l'Ancien Testament comme un pédagogue, paidagogon, paidion, l'enfant, agagein, conduire l'enfant, Dieu conduit son enfant. Le terme est approprié. C'est un terme de saint Paul, et c'est une vraie pédagogie. Dieu conduit son enfant pour un enfant, il le mène sur le chemin vers l'âge adulte, affermir la liberté. Et ça, il va le faire, tous les parents ou les éducateurs parmi vous le savent bien, ou les enseignants, il y a la tendresse et en même temps l'exigence, la bienveillance et en même temps les exigences qui sont liées à la formation du caractère et de la volonté. La tendresse de Dieu, tout d'abord. Il répond aux demandes légitimes des Israélites, quand ils ont faim, quand ils ont soif. On voit cette sollicitude de Dieu quand il adoucit l'eau, quand il donne la manne et l'écaille, et quand il fait jaillir les sources. Il fait, finalement, c'est un rôle paternelle et maternelle, hein, vis-à-vis de leur enfant. C'est la première chose, la première manière pour un enfant de se rendre compte qu'il a des parents, que ce sont ses parents, c'est que ses parents le nourrissent. Le petit bébé dans le sein, qui tète le sein de sa mère, sans en avoir conscience, il fait l'expérience de la maternité. Vous voyez ? Donc, le simple fait de nourrir, c'est très important dans la Bible avant de spiritualiser. Il faut prendre les choses de manière très concrète. Ça a du sens. Hein. Dieu nourrit son peuple et ça a de la valeur en soi. Le livre de Deutéronome, chapitre, reprendra cette idée. Hein. Dieu t'a nourri. Hein, n'oublie pas, c'est pour ça qu'il y a le bénédicité, n'oublie pas de rendre grâce à Dieu, y compris pour les choses les plus simples. Moi, je dis ça aux enfants du catéchisme, quand on parle du Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Évidemment, les mieux formés vont dire c'est l'Eucharistie, d'accord, mais c'est aussi déjà le pain que vous avez dans votre assiette. Apprenez à rendre grâce à Dieu, parce que Dieu, notre Créateur, nous donne ce dont nous avons besoin. Donc ça va rendre grâce. Mais, et puis, non seulement le Seigneur va, mettre en œuvre enfin cette pédagogie de l'amour paternel et maternel, les deux thèmes vont ressortir, mais il y a quelque chose de proprement divin, hein, où Dieu se révèle lui-même quand il dépasse les attentes d'Israël. Il ne se contente pas de nourrir les eaux amères, hein, dans le premier épisode, mais il va conduire les Israélites à Élim, où se trouvent 12 sources et 70 palmiers. 12 et 70, qui sont des chiffres de plénitude, de perfection. Donc, 12 sources et 70 palmiers, bien plus que ce dont Israël avait besoin. Donc, c'est le thème de la surabondance, hein, qui caractérisera Dieu dans, tout au long de la Bible, hein, jusqu'au Nouveau Testament. Hein, le Père donne l'Esprit en abondance, hein, Jean chapitre 3. Hein. Les miracles de Jésus, ce sont des miracles de prodigalité. Multiplication des pains, le vin de Cana, la pêche miraculeuse. Le thème de la surabondance. Non seulement Dieu répond aux besoins de son peuple, mais il donne en surcroît. Mais aussi, il manifeste sa paternité à travers son exigence. Il ne renonce pas à son projet sur son peuple. Et Dieu sait si, pour les parents, il y a sûrement des moments où on dit, bon écoute, c'est tellement insupportable, on finit par... on laisse tomber, quoi, on arrête. Hein. Aller jusqu'au bout, quelquefois, ça demande beaucoup de volonté, et c'est quelquefois, ça coûte beaucoup. Voilà, Dieu ne renonce pas à son projet parce qu'il a des vues sur son peuple, sur ce qu'il veut faire d'Israël. Il le maintient sur la route sur laquelle il l'a mené. Il va le conduire à poser un choix. C'est pour ça qu'il y a le thème de l'épreuve, pour qu'il ne retourne pas en arrière. Il a affermi sa liberté, et là, ça nous prépare déjà au thème du don de la loi, dont nous parlerons la prochaine fois. Et pour cela, le Seigneur va conduire les Israélites à prendre conscience de leur révolte. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron que quand ils sont arrivés au désert de Sin, hein, le Seigneur va donner la manne, et à ce moment-là, ils sauront que c'est le Seigneur qui les a libérés d'Égypte. Alors, ils sauront que c'est moi qui vous ai libérés, ça rappelle un autre emploi du verbe. Ils sauront que, lié à un miracle, donc quel était le moment précédent, la dernière fois qu'on a dit « ils sauront que je suis le Seigneur », j'ai beaucoup insisté dessus.
C'est la dernière plaie d'Égypte, non ?
Voilà, c'est la dernière plaie. On peut dire que c'est toute la...
Oui, c'est la plaie.
C'est toute l'histoire, d'ailleurs, la plaie. Mais les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. C'est-à-dire qu'il affermira son autorité. Ils sauront ce qu'ils sauront. Ils verront ce qu'ils verront. Voilà, c'est une manière pour Dieu de dire, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Il y en a un qui commande ici. Voilà. Ils sauront qu'il y a un Seigneur et qu'il les a libérés. Donc le Seigneur révèle qui il est à Israël. Et alors ça met Israël un peu en parallèle avec Pharaon, hein, parce que Pharaon et les Égyptiens se sont endurcis, et de la même manière, Israël s'enferme dans sa révolte. Eh bien, vous allez savoir qui est le Seigneur qui vous libère. Il y a un autre rappel de l'action puissante de Dieu, par laquelle Dieu manifeste sa puissance, c'est hein, les Israélites verront la gloire du Seigneur. Hein, c'était déjà le cas au chapitre 14, lors de la traversée de la mer. Alors, je termine sur ces trois épisodes en soulignant le fait qu'il n'est pas question de châtiment ou de punition, parce qu'il n'y a pas encore de loi. Il n'y a pas encore de loi. Le Seigneur est juste. Et donc, il ne va pas punir le peuple pour quelque chose que le peuple est incapable de connaître et de savoir. Vous voyez ? La loi, ça veut dire « je t'ai donné le moyen d'accomplir le bien ». Donc, si tu te détournes de la loi, si tu refuses la loi, c'est une rébellion caractérisée. Et là, il y aura des punitions. On le verra dans le, avec l'histoire du veau d'or ou avec les serpents brûlants. Hein. Mais la punition, elle prend son sens dans le cadre d'une alliance. Pour l'instant, on n'est pas encore dans le cadre de l'alliance. Pour l'instant, on est toujours dans cette situation où, d'une dissymétrie totale où Israël, les Israélites étaient complètement passifs, amorphes, ils sortent de l'esclavage. Le Seigneur les a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus. C'est Moïse qui était actif. Comme je vous l'ai dit, le Seigneur est en train d'affermir le cœur d'Israël, mais il ne va pas tout de suite, sévir, parce que dans ce cas-là, Israël a raison de plus pour retourner en Égypte. Ouais. Donc, le thème de la punition sera lié à la loi. Pour l'instant, le Seigneur encourage son peuple et petit à petit le prépare à recevoir le don de cette loi qui fera qui élèvera Israël à un niveau supérieur, parce que avec la loi il y aura comme Israël sera comme un partenaire, il y aura une alliance évidemment pour Israël et Israël passera à un autre statut. Pour l'instant il n'y a pas encore de loi. Un peuple d'esclaves n'a pas de loi. Un peuple, quelqu'un qui est complètement amorphe, vit sans loi. Hein, Dieu prépare Israël à recevoir la loi. Je termine sur la question de la manne. Quelques réflexions sur la manne qui ne font finalement que développer un thème déjà contenu dans ce que nous avons vu dans ce deuxième chapitre. La manne va jouer dans la Bible un rôle très important. La manne et l'écaille, mais l'écaille joue un rôle plutôt secondaire hein, dans ce récit. Il en est très très peu question. Voilà, donc je m'arrête, d'autant plus que le chapitre 16 qui parle de la manne est assez long et assez fourni. Je ne peux pas en donner une analyse très approfondie parce que ça nous prendrait beaucoup de temps, mais j'en retiens quelques éléments de réflexion. Tout d'abord, la manne est une nourriture, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, ce niveau de lecture est opérant quand on lit la Bible. Hein, il y a la lecture littérale, hein, ce qu'on appelle traditionnellement la lecture littérale ou historique, qui elle-même est porteuse de sens. Hein. La manne est donc une nourriture, un moyen de subsistance pour Israël qui marche dans le désert, qui ne peut rien cultiver, évidemment. Une vie itinérante, on ne peut rien cultiver, et dans une zone désertique, il n'y a pratiquement rien à récolter dans les arbres ou que ce soit. Voilà. Dieu va donner cette nourriture comme un pain venant du ciel, hein. C'est une nourriture vitale. De cette manière, Dieu manifeste sa présence agissante auprès de son peuple, hein, comme nous venons de le voir. On a essayé de donner à la manne une explication naturelle. Hein, vous savez qu'à la fin du XIXe siècle, à l'époque du rationalisme triomphant, on a essayé de dire soit la Bible invente, tout est inventé, soit au contraire, on va vous montrer que il y a une réalité historique. Et donc, le même exercice qui avait été fait pour les plaies d'Égypte a été fait à propos de la manne. Et de fait, on a trouvé, donc, on connaît dans le désert, une nourriture qui correspond à ce que dit le texte biblique. Hein, quelque chose de menu, de granuleux, de fin, comme du givre sur le sol. Imagine un peu comme quand il y a un dépôt de poussière ou de plâtre, quoi, je dis ça parce qu'à la paroisse, toute la semaine, il y a les ouvriers qui travaillent et sur les bancs, quand on a la messe le dimanche, on est obligé de tout nettoyer parce qu'il y a ce... Alors, c'est pas de la manne qui est à la paroisse, malheureusement. Mais je devine bien ce que c'est. Donc, vous faites comme ça et puis et vous en récupérez plein. Donc, on devine que ça devait... ça devait fonctionner comme ça. Hein, c'est une sécrétion des tamaris du Sinaï, que les Bédouins appellent manne. Hein, donc, c'est sûrement en mémoire de cet épisode. Voilà, et puis de même pour les cailles, hein, on sait qu'il y a des nuées de cailles, alors je vous ai mis le nom, des coturnix, hein, des petits oiseaux migrateurs, qui viennent en Palestine et au Sinaï au printemps, par gros groupes, qui suivent le vent, et si le vent change, elles se posent à terre avant de retrouver le vent porteur. Voyez, et c'est facile de les attraper à ce moment-là. Donc l'explication naturelle est tout à fait possible. Mais... au-delà de ce sens littéral, et c'est important, parce que la question pour nous, c'est de dire, est-ce qu'il y a un appui historique dans les récits que nous lisons? Voilà, en tout cas, tout au moins, il y a quelque chose de plausible, de possible, dans cette réalité historique. Mais ce qui est le plus important, et ce qui importe pour nous, c'est que le récit présente le don de la manne comme un miracle. Quand les Israélites la découvrent, ils sont tout étonnés. Ils ne s'y attendaient pas et ils posent la question « man où ?» En hébreu « man », c'est-à-dire « quoi ?»« Man », pour une subordonnée, on commence par le même. Quand on dit « quel est ton nom ?»« Ma shlamra hein, »« Man où ?»« Quoi hein, ?»« Où ?» C'est « cela hein, »« Quoi cela »« Qu'est-ce que cela ?» Le nom de « man » garde la mémoire de cette question « man où ?» Et ce nom rappelle la nature mystérieuse de cette nourriture. Ça veut dire que la question du sens est posée dès le départ. Cette nourriture, elle est là pour ouvrir notre esprit, pour nous dire « tiens, il y a quelque chose qui n'est pas naturel, qui vient du ciel. » Et de fait, c'est ce que répond Moïse. « Cela, c'est le pain que le Seigneur vous a donné à manger. » C'est vraiment le pain venu du ciel, comme le Seigneur l'avait dit. Dieu va nourrir son peuple avec cette nourriture pendant 40 années de sa présence au désert. Alors, il y a un point dans le récit qui est très important, qui n'a pas moins d'importance que la réalité même de la manne, c'est les modalités de la récolte. Comment récolter la manne ? Comment récolter la manne? De quelle manière? À quel rythme? Ben, la manne, c'est une nourriture qui est très particulière parce que non seulement elle est fragile, mais on ne peut pas la conserver ni faire des réserves pour le lendemain. Si on en met de côté, eh bien, elle pourrit. Faut j'oublier ce que dit le texte. Il y a des petits vers qui grouillent partout. Donc, évidemment, on n'a pas envie de la garder. Ça veut dire que les Israélites sont obligés de renouveler quotidiennement la récolte. Si c'est Dieu lui-même qui donne cette nourriture, cela veut dire que il prend soin de son peuple comme d'un père ou d'une mère prend soin de ses enfants, mais ça veut dire aussi que il y a une épreuve pour le peuple, comme je vous l'ai dit, il y a cette exigence. Dieu veut conduire son peuple à vivre dans l'abandon, dans la confiance. Faire des réserves, ça reviendrait à s'organiser sans Dieu. Et on a en creux, déjà, une annonce, un pressentiment d'un danger qui apparaîtra en Israël quand les Israélites arriveront en terre de Canaan. Ils pourront avoir des greniers, ils pourront avoir on le verra à l'époque de Salomon, et ils finiront par s'organiser, ils auront tout sous la main en oubliant que c'est Dieu qui leur a donné. Ça, ce thème est rappelé au chapitre 8 du Deutéronome. N'oublie pas que c'est Dieu qui te l'a donné quand tu auras toutes tes récoltes. Jésus le reprendra dans une parabole. Il y a celui qui se dit, ça va, j'ai des bonnes récoltes, j'ai des greniers, j'ai tout ce qu'il faut. Et le Seigneur conclut en disant, malheureux, tu ne te rends pas compte que cette nuit même, ta vie va t'être redemandée. Non. Et Jésus dit, accumulez, oui, mais pour le Seigneur. Allez, enrichissez-vous pour le royaume. Donc pour l'instant, il s'agit pour Israël d'apprendre cette dépendance, cet abandon confiant à Dieu. peut déjà parler d'un acte de foi envers Dieu qui prend soin de son peuple. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce récit nous apprend d'un côté qui est ce peuple d'Israël que le Seigneur est en train de former, comme un enfant à qui on apprend la liberté, mais Israël apprend qui est Dieu, hein, qui va véritablement prendre soin de lui. Et d'ailleurs, il est intéressant que le récit associe très étroitement la manne avec la pratique du Shabbat, parce que le Shabbat est exactement le moment où, chaque semaine, Israël doit se souvenir que c'est Dieu qui parachève la création, hein, c'est Dieu qui donne de la fécondité à tout son travail. Hein. Et donc, savoir se déprendre de ses récoltes, de son travail, hein, de l'emprise que l'on a sur la terre, c'est une expérience essentielle pour Israël. C'est pour ça que le Shabbat sera un des points, un des marqueurs les plus forts de l'identité juive, l'identité d'Israël, et on voudrait dire de l'identité chrétienne aussi. Pour nous, l'obligation dominicale n'a pas moins d'importance que pour les juifs l'obligation du Shabbat. Mais nous sommes moins rigoureux que les juifs de ce côté-là. Pour nous souvenir qu'il y a un jour consacré au Seigneur et qu'on ne fait pas de récolte pour le lendemain, c'est le Seigneur lui-même qui donne ce dont on a besoin. Voilà, la manne va garder une importance symbolique de premier plan dans la mémoire d'Israël. Dieu demande aux Israélites d'en garder une pleine mesure en réserve pour les générations futures, afin qu'elles voient le pain dont je vous ai nourri au désert quand je vous ai fait sortir d'Égypte. Vous voyez, un peu comme un mémorial au temple de Jérusalem de ce chemin dans lequel Dieu n'a pas menti en disant qu'il prendrait soin de son peuple. Alors, je conclue. Il est 10h, donc c'est plus court que les autres fois, c'est parfait. Ça donnera le temps de, s'il y a deux ou trois questions, et cette fois-ci, vous serez au complet. Voilà. On peut dire que c'est vraiment l'émergence d'une figure paternelle qui est en train de se dessiner ici. D'ailleurs, paternelle et maternelle. Alors, je dis ça, vous dites, mais le père Henri, il est comme tout le monde aujourd'hui, il faut bien montrer que c'est l'égalité totale entre les. Enfin, c'est pas moi qui le dis, ce sont les exégètes, et c'est simplement Deutéronome 32, où on voit la figure paternelle et maternelle, hein, les deux figures qui fonctionnent l'une avec l'autre, la paternité et la maternité de Dieu, à l'opposé de Pharaon. Hein, comme je disais, on a un passage de la figure de Pharaon à la figure de Dieu, dont la seigneurie, dont la domination n'est pas du même ordre, ne fonctionne pas de la même manière. La figure de Pharaon était oppressante, hein, Dieu se comporte au contraire de façon à la fois paternelle et maternelle vis-à-vis de ses enfants. Et comme un enfant qui sait que ses parents lui donneront ce qui est bon et nécessaire pour vivre, Israël fait l'expérience de l'attention que Dieu lui montre, d'une part en le nourrissant avec tendresse, mais d'autre part en le faisant naître à la véritable liberté. C'est les deux, c'est vraiment les deux. Les vrais éducateurs, je reprends ce que je disais tout à l'heure, s'ils se contentent de donner à l'enfant sans jamais rien lui demander, eh bien l'enfant va devenir une larve. Voilà. Inversement, s'il n'y a que l'exigence, eh bien l'enfant n'aura pas l'expérience d'être aimé et ne pourra pas grandir et sera malheureux. Il y a besoin de à la fois de la tendresse et en même temps de l'appel à la responsabilité. Les deux vont ensemble et c'est là que on peut véritablement parler de cette paternité de Dieu. La nourriture, mais aussi les épreuves de la faim et de la soif, participent à l'éducation que Dieu, comme un père, donne à son fils qu'il a appelé d'Égypte. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. On a véritablement cette figure de l'enfant, un tout petit enfant passif, qui va grandir et qui sera capable d'entrer dans une alliance, et ça se passera au Sinaï. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des points qui n'étaient pas clairs? Oui.
Quand ils ont quitté l'Égypte,
oui.
Ils sont partis en famille, il y avait quand même les enfants aussi.
Oui.
Il n'y a pas que les adultes.
Oui.
Toutes les familles.
Il y a toutes les familles.
D'accord. Parce qu'on ne parle pas d'enfants.
On ne parle pas d'enfants. Alors là, quand j'emploie le terme de.
On ne parle pas des femmes non plus.
Pardon ?
On ne parle pas des femmes non plus.
Les femmes ?
On ne parle pas des femmes et des enfants, on parle juste des hommes.
On parle des Israélites, les Béné Israël. C'est une des. C'est Ben Adam, ça veut dire un fils d'homme, ça veut dire un humain. un Ben Israël, un fils d'Israël, ça veut dire un Israélite. Donc c'est indifférencié. Voilà. Donc c'est tous les sujets, tous les membres du peuple d'Israël. Voilà. Il y a des moments, on parlera des femmes, des hommes, des enfants, mais ici, c'est pas le... La problématique, c'est surtout le peuple en tant que peuple.
Voilà. Marcher des enfants
3 ans,
3 jours dans le désert,
ça... Ah, alors attention, là, on peut rentrer dans ces... Voilà, il y a des exégètes, d'ailleurs, qui ont dit, est-ce que c'est possible, comment ça s'est passé, c'est pour ça qu'on représente quelquefois des camps qui ressemblent à des qu'on appelle ça, la smala, ou je sais pas quoi, là, on voit tout le monde qui... Il y a les chameaux, avec tout ce qu'il faut, c'est, alors que les chameaux n'étaient pas encore domestiqués, je crois, à l'époque, mais oui.
D'autant plus que 40 ans, c'est 2 générations, peut-être qu'il y en a qui sont nés dans le désert.
Exactement, le Seigneur a attendu qu'il y ait une génération qui meure parce qu'ils se sont rebellés pour que ce soit une nouvelle génération. 40 ans, c'est leur génération m'a déçu. Pourquoi j'ai dit jamais ils n'entreront dans mon repos. Oui. C'est le passage d'une génération à une deuxième génération, tout à fait. Oui. Oui. Réphidim, ça j'avoue que je ne l'ai pas noté ici, non ? Resh Pédalet, une fois que je regarde. Mais là, ça, pour l'instant, je ne peux pas vous les dire. Et je ne crois pas que la Bible en donne l'explication. Oui. Oui.
Le commerce, c'est quelle quantité, à peu près ? Vous savez, les quantités de mal ?
Ça je vous donnerai pas ici, oui. Ça, c'est, oui.
Et puis, je voulais vous dire, il y a une parabole sur les caramels. Vous savez, c'est le voisin qui dérange... quelqu'un d'autre la nuit qui frappe et puis il insiste et puis à la fin...
Ah oui, voilà. Ah oui, la question des caramels, de la petite fille qui dit un paquet comme ça, elle sait qu'on en aura un, ben c'est, oui, c'est exactement la parabole des caramels. C'est, oui. C'est la parabole de celui qui dit « donne-moi 3 pains parce que... » Voilà, oui, c'était une remarque très juste. Hein.
Pourquoi le choix de l'automne de Poussin pour illustrer cette séquence?
Alors, j'aurais pu mettre la suite du titre. C'est, il y a toujours, ce sont des épisodes bibliques. Poussin, vous savez, a fait cette série des 4. Et c'est les épisodes bibliques. Ah oui, ça, j'aurais dû vous mettre. En fait, là, c'est la manne au désert. C'est un tableau assez fascinant, un tableau assez grandiose. Alors, il y a, par exemple, l'été, c'est Ruth, avec la moisson. Voilà. L'hiver, c'est je sais pas si c'est le déluge ou... J'ai un peu oublié, mais vous avez ces 4 tableaux extraordinaires. Voilà.
Et puis le vin...
Ah voilà, c'est ça, c'est le Val d'Eshtaol, là, quand ils arrivent en terre promise. Oui, c'est l'automne. Pas d'autres questions ?
Oui. Et pourquoi ce passage dans le désert est tellement idéalisé par les prophètes ?
Mais parce que... Pourquoi le passage au désert est idéalisé par les prophètes ? Parce que Israël... dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a que la parole de Dieu qui permet à Israël d'avancer. Israël se rend compte que s'il n'écoute pas la parole de Dieu, il dépérit ou il revient en Égypte. Et donc, il n'y a pas le choix, il y a l'écoute de la parole. Le Seigneur, les prophètes vont comparer cette époque à une période de fiançailles. À ce moment-là, tout est possible. Une fois qu'ils arrivent en terre promise, eh bien, il y aura la dénonciation de tous les péchés possibles. Ils vont se réaliser. Hein. Le fait d'aller vers les idoles, le fait de s'appuyer sur ses propres récoltes. Hein. Souviens-toi du temps où tu avais un cœur qui était capable d'écouter. Aujourd'hui, tu n'es plus capable d'écouter. Ouais. Voilà. C'est le Midbar. Midbar, en hébreu, il y a Davar qui veut dire la parole. Midbar, c'est le lieu de la parole. Hein. Il n'y a rien d'autre que la parole. Hein. Le temps des fiançailles. Voilà.
C'est peut-être... Parce que dans le désert, c'est exprimé le dessein de Dieu, peut-être.
Le dessein de Dieu, mais bien sûr. C'est
d'importance.
Oui. Et lisez le livre d'Osée, on va terminer par là, mais le livre d'Osée, les chapitres 2, 4, 11. Hein, là, le Seigneur dit, je vais... Et puis il commence de façon un peu rude, hein. je vais te secouer, voilà. Et là, je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur. Et là, tu me répondras. Hein. Le problème, c'est qu'Israël ne répond plus à Dieu. Dans le désert, il y a eu la possibilité de cette alliance. Parce qu'Israël, là, on est au moment où Israël découvre que Dieu répond. non seulement Dieu lui répond, mais Dieu le fait grandir. Donc Israël dit, mais il est vivant le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Donc moi j'ai envie d'entrer dans cette alliance. Et donc il y a une écoute. Une fois qu'on est en terre promise, ben, le petit enfant, il a la maison, on lui a tout donné, il a tout ce qu'il faut, il n'écoute plus ses parents, il n'en fait qu'à sa tête, il s'enferme. Alors à un moment, les parents disent, ben, tout ce qu'on t'a donné, on va le mettre au fond d'un placard, voilà, il n'y aura plus rien, et là, on pourra enfin discuter. Ouais. Donc on va revenir au désert, c'est-à-dire on va reprendre les conditions d'une véritable écoute. Ouais. Il y a quelque chose de très familial hein, dans toute cette imagerie. Hein, mais les termes sont voulus par les prophètes. Hein, les termes de... Voilà. Eh bien écoutez, on va s'arrêter, parce que là, pour le coup, j'ai le moyen de vous faire perdre les complis. Mais souvent, ils sont en retard. Donc, bonne soirée à tous. Et la prochaine.